DW. Économie et développement.
Ce numéro se penche sur l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Où en sont les relations commerciales entre l'Afrique et les États-Unis?
Après plusieurs années, il est temps de regarder la copie, peut-être repenser cette AGOA.
La préoccupation devrait être au cœur du prochain sommet de l'AGOA qu'organise en 2025 la République démocratique du Congo. Et puis, dans la seconde partie, nous verrons comment les Burundais font face à la pénurie du carburant et aux difficultés d'accès aux devises. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bienvenue à toutes et à tous.
DW.
Depuis le début de l'année 2000, des pays d'Afrique subsaharienne partagent avec les États-Unis une expérience économique et commerciale particulière à travers un dispositif appelé AGOA. C'est un accord qui, comme l'explique Richard Mombongo Niembwe, permet à un certain nombre de produits en provenance d'Afrique subsaharienne d'être exemptés de droits de douane. Pour l'économiste congolais, cet accord, qui concerne aujourd'hui 35 pays, instaure des préférences commerciales conditionnées au respect des critères politiques et économiques, favorisant l'amélioration de leur production.
Cette loi-là poursuivait un objectif principal qui était celle de stimuler la croissance et le développement orienté vers l'exportation en franchise de droits. D'une autre manière, on peut parler des franchises des taxes ou des droits des douanes. Donc cet élément-là, dans les termes du commerce international, c'est important pour nous qui importons plus et exportons moins. Et c'est cette possibilité-là qui peut nous permettre de résorber les problèmes de l'écart entre les XLM, donc l'importation et l'exportation, qu'il y ait équilibre. Enfin, que ces éléments-là auront une influence directe sur la production nationale.
La loi sur la croissance et les possibilités économiques pour le commerce et la coopération entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne donne accès au marché américain à plus de 1800 produits qui s'ajoutent au système de préférence généralisée. Ce chiffre est confirmé par Constance Hamilton, représentante adjointe des États-Unis au commerce extérieur pour l'Afrique. Ce sont donc au total près de 6 ou 7 000 produits qui peuvent entrer aux États-Unis en franchise de droit, ce qui amène les dirigeants africains à se féliciter de l'expérience. Mais pour Honoré Mondo Mombé, économiste camerounais et expert en commerce international, il y a lieu de repenser les contours de ce partenariat pour le rendre plus fructueux, plus inclusif et adapté aux réalités actuelles des pays africains.
Donc dans son fondement, c'est une excellente idée pour développer le commerce entre l'Afrique et le pays de l'oncle Sam. Mais je pense qu'après plusieurs années, il est temps de regarder la copie. D'abord, pour s'assurer que l'AGOA a pleinement joué son rôle. Au cas où ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être repenser cette AGOA visant à aider les pays africains à profiter de l'AGOA. C'est un débat de développement structurel fondamental et c'est un débat qui mérite d'être discuté en Afrique au prochain sommet sur l'AGOA qui aura lieu en République démocratique du Congo. Et cette discussion doit être une discussion franche, basée sur un bilan, basée sur le passé de l'AGOA et surtout sur les bénéfices pour les pays africains. Parce que jusque-là, les pays africains ont été invités à l'AGOA. Les États-Unis ont communiqué sur l'AGOA de façon excellente, mais le moment est venu de savoir qu'est-ce que l'AGOA a apporté aux pays africains et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Quels sont les produits qui doivent désormais être inclus dans l'AGOA pour que l'Afrique sache profiter de cette opportunité de marché préférentiel vers les États-Unis.
Le rendez-vous de Kinshasa en 2025 s'annonce déjà décisif. Il focalisera toutes les attentions. Depuis sa réintégration en 2021 au programme AGOA, la RDC a vu ses échanges commerciaux avec les États-Unis passer de 8 millions à 3 milliards de dollars, renforçant ainsi sa balance commerciale et prouvant sa capacité à devenir un acteur majeur sur la scène économique internationale. Les autorités congolaises se préparent déjà activement à accueillir cet important forum et Richard Mombongo Niembwe, y entrevoit une véritable opportunité pour le pays.
Très important pour notre commerce extérieur qui reste encore fragilisé, où il y a la guerre qui bat son plein au niveau de l'Est des pays. Et nous savons bien que notre économie est fondée essentiellement sur le secteur minier, où nous savons que dans ces zones-là, il y a des terroristes, il y a des rebelles qui règnent dans ces coins-là, ce qui fait en sorte que des fois, nos produits qui sortent dans notre économie pour aller dans d'autres économies sans pourtant passer par la voie normale permettant aux autorités de gagner de l'argent, en fait d'améliorer aussi les conditions de sa population.
La RDC, l'hôte du prochain sommet de l'AGOA, continue donc de faire face à des défis économiques importants malgré ses richesses naturelles abondantes. C'est pour cela que l'économiste et expert camerounais en commerce international, Honoré Mondo Mombé, estime aussi que la RDC a tout à gagner en accueillant ce forum.
Une bonne opportunité pour la RDC, non seulement d'accueillir les autres pays membres de cette convention, mais aussi d'augmenter la visibilité de la RDC comme un pays de possibilités d'exportation, non seulement comme un pays minier, mais beaucoup plus comme un pays agricole, visant à permettre d'avoir des opportunités, non seulement de production, mais de transformation de produits agricoles qui pourraient être exportés vers les États-Unis.
DW.
Et nous abordons la seconde partie de ce magazine avec le Burundi qui subit les impacts de la pénurie du carburant ainsi que de la hausse et de la carence inquiétante de devises. Le dollar, de plus en plus rare, se change dans le pays à 7000 francs burundais et plus. Le manque de carburant dure depuis 4 mois. Plusieurs secteurs et activités économiques sont touchés. Les prix de certaines denrées alimentaires et autres produits de première nécessité ne cessent de grimper sur le marché à Bujumbura. Mais des issues heureuses pour cette situation existent aux yeux des analystes. C'est un reportage d'Antédites Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Il est midi et demi à Bujumbura. C'est généralement l'heure du déjeuner. Nous nous rendons dans un restaurant à la gare du Nord. Martin, un conducteur de moto-taxi, est seul à sa table. Son menu choisi, la pâte de maïs accompagnée du haricot, le tout pour 1000 francs. Mais pas assez pour combler sa faim.
Avant, avec un plat de 1000 francs, on est bien rassasié et le ventre tient. Mais actuellement, c'est comme si on prenait du thé. C'est dur pour les clients.
La vie de Martin est partagée par les restaurateurs. L'impact de la hausse des prix est réel et cela risque de durer. Joséphine et Paul s'en inquiètent.
Nous travaillons à perte. Le nombre de clients a vraiment chuté. Ceux qui mangent deux fois ne mangent plus qu'une fois par jour. D'autres ont changé leur mode. Au lieu de manger à midi, ils viennent à 15 heures pour que le déjeuner serve de dîner en même temps.
Un plat de 1000 francs est passé à 1500 francs. Mais avec ces 1500 francs, on ne gagne presque rien. On va devoir servir un plat à 2000 francs.
Dans les transports, l'impact de la pénurie du carburant se fait aussi sérieusement sentir. À la pompe, si le produit arrive à être disponible, il est difficile de faire le plein des réservoirs. Des cas de dessous de table sont souvent dénoncés chez les pompistes pour un service rapide. Ferdinand est un conducteur de taxi.
Actuellement, on n'est plus obligé de payer de pots de vin aux stations-service pour s'approvisionner. Payer 10 ou 20 000 francs pour faire le plein comme avant. Maintenant, c'est un peu mieux, même si l'on ne peut pas dire que tout est rose.
En conséquence, pour s'offrir un peu de bénéfice dans les transports en taxi ou en bus, certains chauffeurs se fixent des prix du ticket en violation des tarifs officiels. Le commerce et l'investissement se comptent parmi les secteurs frappés de plein fouet par la pénurie du carburant. La hausse et la carence récurrente des devises influent négativement sur l'économie nationale. Cette situation est engendrée d'une part par la faible production nationale qui en conséquence limite les exportations. La réglementation des investissements et la libéralisation du commerce sont susceptibles de renverser la tendance, explique Jean-Marc Ndiokubgayo, importateur à Bujumbura.
L'insuffisance de devises dans le pays est une préoccupation et ça ne doit pas être une obligation. Le manque de carburant, des médicaments et d'intrants agricoles explique le manque de devises.
Toutefois, le Burundi dispose de 5 piliers de l'émergence pour réaliser sa vision d'un pays développé d'ici à 2060. Le patrimoine culturel et écologique et le partenariat fructueux font partie des objectifs en vue. C'est l'engagement de l'État dont le respect mènerait vers la réussite. C'est du moins l'avis de Gabriel Oussiri, activiste pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les malversations économiques.
La réforme institutionnelle est responsable de la bonne gouvernance. C'est le premier pilier, la gouvernance, dans toutes ses formes. Le deuxième pilier, c'est l'efficacité économique. Le troisième pilier, c'est équité sociale ou équité économique, donc la redistribution des ressources. On peut s'inspirer de ces cinq facteurs pour développer notre pays. C'est possible.
C'est possible. Mais depuis 4 mois déjà, règne une instabilité au moult effet sur l'économie. La difficulté d'approvisionnement du pays en carburant inquiète. La plupart des stations-service sont à sec. Un souci de plus tend à se généraliser. Le taux de change aussi autour de 7000 francs burundais pour un dollar sur le marché parallèle contre environ 3000 francs le dollar sur le marché de change officiel. La situation de change est inédite, s'indignent les analystes. Pour Faustin Dikoumana, consultant en macroéconomie, il faut des mesures contraignantes dans la réglementation de change et la gestion des réserves en devises.
Il faut augmenter la capacité des réserves de change à la banque centrale. Il ne faut plus avoir des réserves de change en dessous d'un mois. Il faut des réserves de change suffisantes, 3 ou 4 mois. Donc, un indicateur de devises suffisant permettant une marge de manœuvre suffisante pour importer une gamme de produits variés dont le pays a besoin. Il faut que le numéro de devises qui est disponible soit géré de manière transparente.
La lutte contre le monopole dans l'importation du carburant et la libéralisation réglementaire du marché de change pour la collecte rapide et la disponibilité de devises sur le marché s'impose. En Teddy Niragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
C'est avec ce sujet dans Teddy Niragira que va s'achever ce numéro d'économie et développement. Merci à Richard Mobongo Niembwe et à Honoré Mondo Mombe pour leur contribution sur les contours de l'AGOA. Je vous remercie également d'avoir suivi ce magazine. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.